Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Je pense qu'il y a une vertu aujourd'hui des résistances, des gens qui tiennent bon.
Bonjour, c'est Simon Brinfo. Au menu de ce numéro de Dans quel monde on vit, se tenir droit et rêver avec le journaliste Edwy Plenel et le chanteur et écrivain Mathias Malzieu.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Simon Brinfo.
Arrivé en tête de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas, victoire du candidat d'extrême droite Javier Milei en Argentine, nous nous habituons progressivement à entendre ces mots lorsque nous écoutons les infos. Et vous avez sans doute vu comme moi que ce candidat argentin à la chevelure hirsute a fait sa campagne une tronçonneuse à la main. Cette tronçonneuse symbolisant son envie littéralement de découper les institutions étatiques et les dépenses publiques à grand renfort de privatisation. Ça m'a rappelé un film, Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Toby Hooper et qui date de 1974. Massacre à la tronçonneuse mettait en scène cinq jeunes gens qui traversent le Texas en minibus, tombent en panne d'essence et ont la très très mauvaise idée d'aller demander de l'aide dans une ferme isolée qui se révélera habitée par une famille plutôt hostile. À l'époque, les gens se sont pressés dans les salles de cinéma pour voir ce film d'horreur qui a été un immense succès. Comment comprendre un tel attrait pour ce qui nous effraie ? Aristote l'avait bien montré, nous aimons nous faire peur. Aller voir une tragédie, expliquait-il, nous permet de nous décharger de vivre des émotions par procuration. Mais que se passe-t-il lorsque le monstre effrayant ou la sanglante tronçonneuse des films d'horreur deviennent réels ? Le sommeil de la raison produit des monstres, écrivait récemment Edwy Plenel. Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui le massacre à la tronçonneuse de nos démocraties ? Allons-nous devoir nous cacher, nous aussi, dans une maison abandonnée, transie de peur ? On le sait, la démocratie n'aime pas la violence, le sang. Mais alors, quelles sont ses armes, répétons-nous souvent ? La meilleure arme de la démocratie, ce n'est sans doute pas un revolver ou un couteau, c'est l'éveil. Et ce qui peut nous tenir en éveil aujourd'hui, ce sont sans doute pas des litres de café ou des écrans de téléphone, mais peut-être simplement des mots et leur sens retrouvé.
Dans quel monde on vit ?
Des mots de tous les genres et de toutes les formes. On va en entendre aujourd'hui. Je vous présente sans plus attendre nos deux invités du jour. Edwy Plenel, tout d'abord, vous êtes journaliste. Vous avez notamment travaillé au Monde pendant près de 25 ans. Vous êtes le cofondateur et président de Mediapart depuis sa création en 2008. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Le dernier s'intitule « Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible ». C'est aux éditions du Seuil. Nous allons en parler dans quelques instants. Et Mathias Malzieu, qui nous rejoindra dans ce studio dans quelques minutes, viendra quant à lui nous parler de l'Extraordinarium, un album de 21 titres célèbres de son groupe Dionysos, repris en duo avec une série d'invités. Cet Extraordinarium, c'est aussi un livre qui rassemble tous les ouvrages de Mathias Malzieu, avec en bonus quelques histoires inédites. On peut donc découvrir et redécouvrir sa poésie et ses romans les plus emblématiques, comme La mécanique du cœur, Le guerrier de porcelaine ou encore Le journal d'un vampire en pyjama. Ce sera un peu plus tard dans cette émission. Edwy Plenel et Mathias Malzieu sont nos invités cette semaine. Et bonjour Gilles.
Bonjour Simon.
Gilles Bartholins, les auditeurs de cette émission vous connaissent bien, vous êtes historien, écrivain, et comme c'est la tradition dans cette émission, vous avez pris votre plume et vous avez une lettre à partager avec nous. Alors, à qui avez-vous écrit ?
Alors aujourd'hui, je vais écrire au Black Friday. Le chevalier de la dépense.
En toutes lettres, ce sera vers 10h30, dans une petite demi-heure donc. Mais tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité de cette semaine, évidemment toujours marquée par la guerre au Proche-Orient, avec la recherche compliquée d'un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, accord qui a finalement été concrétisé vendredi matin, mais qui reste cependant très fragile.
Israël négocie avec des ennemis que son armée ou ses services essaieront de tuer à un moment ou à un autre. C'est évidemment une position ambivalente, une stratégie qui pose de nombreuses questions.
Et pendant ce temps-là, les familles des otages continuent leur pression sur le gouvernement israélien.
Je peux vous dire que nous allons doubler la pression. Nous ne nous arrêterons pas. Nous mettrons une pression de plus en plus forte jusqu'à ce que le dernier soit de retour.
On l'appelle le Trump de la Pampa ou El Loco, le candidat d'extrême droite argentin Javier Milei, qui se décrit comme libertarien et anarcho-capitaliste, a largement remporté dimanche dernier le second tour de l'élection présidentielle en Argentine.
Nous avons la détermination de résoudre les problèmes de la Banque centrale. Nous avons la détermination de remettre sur pied l'Argentine et d'aller de l'avant. Mais tout ça, ce n'est pas une tâche pour les modérés, ni pour des lâches, et encore moins pour des corrompus. Alors, ayons confiance en nous, on peut le faire. Vive la liberté, putain!
Le parti néerlandais d'extrême droite, PVV, islamophobe, anti-européen et climato-sceptique mené par Geert Wilders a remporté les élections législatives aux Pays-Bas ce mercredi, ce qui a provoqué un véritable séisme dans toute l'Europe.
C'est en fait un vote de protestation. La question est de savoir si Wilders peut trouver ses solutions. Avec ce résultat, je suis curieux de voir quelle coalition va en sortir pour atteindre les 76 sièges.
C'était donc quelques temps forts de l'actu cette semaine. Et de votre côté, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Edwy Plenel ?
Oh, tout ce que vous venez de dire, parce que c'est difficile de tourner la tête et le pire serait l'indifférence. Nous sommes dans une épreuve de vérité pour notre génération, mais surtout les générations à venir. Les monstres surgissent, vous connaissez cette vieille formule d'Antonio Gramsci, la crise, c'est un vieux monde qui est condamné, mais qui ne veut pas mourir, ouais. Il s'accroche. Et puis, il y a un nouveau monde avec plein de jeunes pousses, et on le voit bien dans toutes les protestations, dans toutes les lucidités portées notamment par la jeunesse. Et la phrase importante, c'est la suite. Dans cet entre-deux, ou dans ce clair-obscur, dit une traduction plus poétique, surgissent, alors littéralement, il dit les phénomènes morbides les plus variés, mais la traduction poétique dit surgissent des monstres. Nous sommes à l'époque des monstres. Nous sommes à l'époque de la mise en cause d'une humanité commune, du droit international, des droits humains. Cela nous rattrape, ce n'est pas au-delà de nous, c'est partout.
Et vous, Gilles, qu'est-ce que vous avez pointé dans l'actu ?
Ouais, on l'a évoqué dans la photo sonore, oui, c'est la victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas. Moi, je mets ça en parallèle avec, si vous vous souvenez, en juillet, le roi des Pays-Bas qui allait s'excuser pour l'implication de son pays dans l'esclavage. Alors pour moi, ça fait quand même deux plateaux d'une balance très, très, très étrange.
C'était vos temps forts de l'actualité et maintenant, eh bien, on va parler politique et littérature avec vous, Edwy Plenel.
On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit.
Robbie Williams dans ce rôle ultra célèbre du professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, un film de Peter Weir qui date de 1989. Ce professeur Keating qui parle à ses élèves de l'importance de la poésie. Seuls les poètes savent admirer, c'est pas du Keating, ça c'est du Plenel. C'est la première phase de votre livre, Edwy Plenel, Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible, c'est son titre. Dans cet ouvrage, vous convoquez, une fois n'est pas coutume, la littérature et la poésie loin du journalisme qui, dites-vous, y fait figure de grand absent. Vous brossez 12 portraits d'écrivains qui ont compté pour vous, qui ont en commun, écrivez-vous encore, d'avoir balisé les routes de l'émancipation tout en luttant et pensant à contre-courant. On retrouve notamment Édouard Glissant, Émile Zola, Charles Péguy, Rosa Luxembourg, Jean de La Fontaine ou encore Walter Benjamin. Une manière peut-être de brosser un portrait plus intime de vous et du Plenel tout en ne perdant pas de vue vos combats et vos idéaux, puisqu'il s'agit bien de rechercher, avec l'aide de tous ces auteurs, une certaine espérance en ces temps difficiles et de penser une autre politique, une politique du sensible, dites-vous. Alors justement, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous nous parlez de cette politique du sensible qui viendrait se poser en alternative à cette politique actuelle faite de bassesse, d'amoralisme, de quête effrénée du pouvoir et de la domination. Vous nous parlez d'une politique, dites-vous, de l'attention et de la précaution, une politique d'éthique et de principe qui ne redoute pas l'exigence morale, une politique en somme, dites-vous encore, du scrupule, une politique du petit caillou ou du grain de sable. C'est quoi, Edwy Plenel, ça, cette politique du scrupule, cette politique du petit caillou dont vous nous parlez?
C'est celle qui va finir par gagner.
Vous en êtes sûr?
Oui, bien sûr. Ils font des dégâts dans leur logique de puissance. Mais c'est une logique de court terme. Ils savent que leur monde est fini. On le voit bien avec toute la catastrophe d'une logique financière spéculative et qui a créé des inégalités comme jamais. On le voit bien, vous voyez tous les débats sur les crypto-monnaies et tout ce monde parallèle de spéculation. On le voit bien avec, évidemment, l'urgence écologique et leur inconscience. Donc, ce vieux monde est dans une logique immédiate. Ils veulent continuer à se gaver. Ils veulent continuer à profiter. Ils veulent continuer à leur échelle de vie, voire ils ne vont pas au-delà, je dirais, de leur descendance, d'où tous ces nouveaux groupes mondiaux où il y a une transmission patrimoniale, familiale, comme dans l'Ancien Régime. Ouais. Mais ils ne voient pas au-delà, ils ne voient pas à niveau d'humanité. Alors bien sûr qu'ils font d'immenses dégâts, ils font même des catastrophes humaines terrifiantes, et Dieu sait si elles sont un peu partout dans le monde, ces 20 dernières années. Et en même temps, je pense que ce monde est condamné. Et c'est pour ça qu'il est méchant. C'est pour ça qu'il tombe.
Parce qu'il s'accroche.
Masque. Bien sûr, il s'accroche alors que la réalité le condamne. Donc du coup, il a besoin de diversion, il a besoin de bouc émissaire, il a besoin de violence. Et il a besoin de lâcher les chiens. Donc voilà, je crois vraiment que cet horizon de bonté et de beauté, eh bien, c'est celui de notre espérance et de notre résistance.
Et c'est ce que la poésie nous permet de, et la littérature nous permet de mieux saisir, de mieux voir. La poésie a vraiment pour vous un rôle dans cette politique du sensible qui va venir ?
Oui, bien sûr. La phrase « Seuls les poètes peuvent admirer » ou « savent admirer » vient de quelqu'un qui est très cher pour moi et dont toute l'œuvre est autrement lucide que ses discours et ses actes politiques immédiats. Il s'agit d'Édouard Glissant, qui est de mon pays d'enfance, la Martinique, qui est le pays d'Aimé Césaire, le pays de Frantz Fanon. Et Édouard Glissant a écrit cette idée-là autour d'un hommage à un autre écrivain poète, qui était Antonio Tabucchi. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit que la politique qui peut nous élever, qui peut faire du commun, faire du lien, de la fraternité, du souci de notre humanité commune, eh bien c'est celle qui passe par un imaginaire. C'est comme une randonnée, pour être très concret. Quand on randonne, eh bien on fait du dénivelé, on souffre un peu, mais on cherche un horizon, on cherche un point de vue. On n'attrapera jamais l'horizon. Et en même temps, on va respirer, on va aller au-delà de soi-même.
Oui.
Je suis laïque, je n'ai pas de croyances religieuses, mais je crois qu'il y a du spirituel dans l'engagement, y compris dans l'engagement démocratique que suppose le journalisme. Aller au-delà de soi-même.
Aller contre soi-même, Edwy Plenel, aller donc contre soi-même. Comment on fait pour penser contre soi-même, Edwy Plenel ?
C'est le thème du chapitre sur Peggy.
Exactement.
Bien sûr, et c'est une phrase de Charles Peggy, il disait ça en tant que chrétien indocile. Hein. Penser contre soi-même, il n'y a rien de plus douloureux. Penser contre les siens, il n'y a rien de plus difficile. Ah ben, c'est au cœur de notre métier, penser contre soi-même, et de sa responsabilité sociale, de son utilité démocratique. Le journalisme indépendant est aussi celui qui doit nous mettre sous les yeux ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, y compris nous-mêmes. Y compris nous-mêmes, nous avons des préjugés, nous avons des convictions, des a priori. Et penser contre soi-même, pour moi, c'est un travail collectif. On pense à plusieurs, on est intelligent à plusieurs. Et là, on en revient à la folie de ce vieux monde. Vous voyez bien que de plus en plus, c'est un monde de la captation par des leaders autoproclamés, par des folies personnelles, par des égocentrismes, des logiques de gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes, y compris dans le monde médiatique, cela existe, hélas. Et donc, penser contre soi-même, c'est tout à fait le chemin aussi d'une émancipation collective.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, Edwy Plenel, au fond, est-ce que le monde politique n'a pas toujours fonctionné comme ça ? Vous dites dans l'ouvrage qu'au fond, ce qui a peut-être changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pédagogie, je crois que c'est votre expression, une pédagogie de la bassesse qui nous est donnée par le monde politique actuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je pense qu'il y a ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'effacement du sursaut de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit bien de l'Europe, c'est nous qui avons apporté les pires catastrophes au monde. Et tout d'un coup, après 1945, on a vu l'ampleur de ce qui avait fait retour sur notre propre continent. Le crime contre l'humanité, le génocide des Juifs d'Europe. Et du coup, il y a eu un sursaut des politiques sociales, des politiques du commun, justement, des services publics, ce que M. Milei en Argentine veut supprimer. Et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont le rédacteur était un Français, qui était compagnon du général de Gaulle à Londres, René Cassin. Et là, on savait que tous les États qui ont voté ça l'État ne le respecterait pas forcément. Mais on a proclamé un imaginaire. On a proclamé un imaginaire du commun, du droit international. Dieu sait si c'est au cœur de ce qui se joue actuellement au Proche-Orient, le respect du droit international et en l'occurrence des droits des Palestiniens qui sont bafoués. Et donc, nous avons proclamé ça. Nous l'avons proclamé jusqu'à, on l'a oublié, mais il y a 50 ans, s'élaborent les accords d'Helsinki qui, alors que le bloc issu du totalitarisme stalinien est toujours là et que c'est encore la guerre froide, on proclame des idéaux communs. On proclame quelque chose qui est une exigence commune. Et donc, le monde politique, il est à l'époque, il n'est pas pur, hein, il a des corrompus, il a des violences, il y a encore des dictatures en Europe, on le sait à cette époque-là, en Espagne, en Grèce, au Portugal. Mais il y a un idéal qui est porté par ce monde politique, y compris celui d'une communauté internationale, et donc par sa langue, par son langage, par la hauteur de son langage. L'ultime exemple qu'on en a eu à l'échelle de notre continent, c'est Dominique de Villepin face à la folie américaine après 2001 sur l'Irak. La hauteur du langage. Nul hasard si Dominique de Villepin est lui-même un amoureux de la poésie.
Mais oui, mais parlons du langage et du plein air, parlons de l'importance des mots, les mots des poètes, des écrivains. Mais encore faut-il, ces mots, être capable de les lire, de les comprendre. Sait-on encore lire aujourd'hui, au fond ? Est-ce que nous vivons, comme certains nous le disent, une crise de la lecture, Edwy Plenel, selon vous ?
Ah, je ne crois pas. Je crois qu'on est, vous savez... Pour moi, je dis souvent que la révolution numérique ou digitale, puisque c'est le cœur du sujet, toutes ces plateformes, toutes ces mobiles, tous ces réseaux sociaux, on a dit souvent que c'est la troisième révolution industrielle de notre modernité, après la machine à vapeur, l'électricité et les énergies fossiles. Mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'équivalent à l'invention de l'imprimerie. Donc nous sommes dans ce moment où il y a les lumières, des inventions formidables, des curiosités formidables. Et pourquoi je parle de l'invention de l'imprimerie. Tout d'un coup, c'est la démocratisation du savoir. C'est la circulation. Le numérique permet d'apprendre plein de choses, de contrôler les gouvernants aussi. D'où la persécution de Julian Assange et d'autres qui ont été ceux qui ont compris ça, qu'il y avait une possibilité d'une stratégie du faible au fort, bombarder d'informations la puissance, la dévoiler, la démasquer. Et puis, de l'autre côté, ben, ça se crispe. C'est d'autant plus violent. Donc, nous vivons ce moment-là. Ça a duré 3-4 siècles. J'espère que ça durera moins longtemps pour nous avant qu'on voit le bout de la lumière. Mais pour moi, on est dans un moment qui ressemble à ce moment-là, c'est-à-dire c'est la Renaissance. Donc c'est les possibles du savoir, c'est les possibles de la connaissance. Donc je ne suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant et tout fout le camp.
Oui, on va maintenant en apprendre un peu plus sur vous justement. On écoute votre selfie sonore, Edwy Plenel.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi.
La mauvaise réputation de Georges Brassens, évidemment. Vous avez mauvaise réputation, Edwy Plenel ?
Oui, j'aime bien. Vous savez, d'abord, pour l'anecdote, c'est le premier titre un peu célèbre de Georges Brassens, de son premier disque, en 1952. C'est l'année de ma naissance. Alors, ce n'est pas pour ça que je voulais proposer.
J'imagine.
Pour moi, c'est l'hymne du journalisme que je défends. Ce journalisme indépendant dérange. Et donc, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. On est à la fois populaire, mais comme vous le savez, on est accompagné. Et comme j'ai presque un demi-siècle de pratique, je me retrouve accompagné de toutes sortes de noms d'oiseaux, de calomnies, de caricatures. Il suffit d'aller sur le numérique pour les croiser et les trouver. J'ai été agent de la CIA, j'ai été un soutien du terrorisme, j'ai été un islamo-gauchiste, j'ai été un fraudeur fiscal. Enfin, je ne vais pas rectifier tout ça devant vous, mais tout ça pour dire que c'est le lot de ce journalisme qui dérange. dérange les braves gens, qui dérange ceux que l'émancipation, ils ne voudraient pas qu'on continue à poser des problèmes. Car c'est ça notre rôle, porter la plume dans la plaie, mettre sur la table des questions que sans doute les puissants, les dominants, les installés dans leur confort ou dans leur domination, dans leurs injustices, ne veulent pas qu'on discute, ne veulent pas qu'on regarde.
L'injustice donc, a-t-elle pris des nouvelles formes, tiens, Edwy Plenel, selon vous, aujourd'hui ?
Elle a pris la forme du sans-gêne, pour moi. Voyez, je parle depuis la France, qui, comme j'aime le dire, est la seule monarchie élective de notre continent, celle d'un pouvoir absolu par l'élection du président de la République. Et il n'y a plus de tenue sur des règles éthiques, sur des règles de principe, sur les conflits d'intérêts. Regardez notre ministre de la Justice qui a été jugé et semble-t-il, il va s'en sortir alors que les faits sont totalement là et qu'il aurait dû en tirer les conséquences, comment il a utilisé son pouvoir au service de ses propres intérêts. Et puis, plein d'exemples. Il n'y a plus de leur part de maintien, se tenir droit. Ils ne se tiennent plus. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté à l'injustice une sorte de brutalité, de violence et en retour, elle déchaîne de la violence, elle déchaîne la violence du ressentiment et on voit bien comment aujourd'hui c'est une expression qui s'est répandue le Sud global mais on voit bien comment ce qu'on appelle l'Occident, c'est la projection politique de l'Europe sur le monde, ce n'est pas une réalité géographique, est aujourd'hui de plus en plus inconscient du monde et il nous entraîne dans cette inconscience parce que en face, il y a d'autres monstres qui surgissent, bien sûr, et ils nous ont frappés avec les idéologies totalitaires qui ont inspiré le terrorisme d'origine islamique. Eh bien, il y a une sorte de cercle infernal de guerre des monstres, de guerre des civilisations, de choc des mondes. Et ça, ça a changé parce que ça redouble toutes les injustices, ça redouble toutes les violences.
Il est question aussi, dans ce livre, beaucoup de beauté, Edwy Plenel, tout simplement. Beauté, bonté, je vous cite, ces deux mots pourraient être les sésames d'une politique sensible. Où est la beauté aujourd'hui, selon vous ?
Elle est là, il suffit de regarder autour de nous. Elle est là même dans...
Mais on ne sait plus la voir ?
Dans des gestes ordinaires. Si, je pense que... Je pense que, y compris les gens qui sont égarés par toutes ces monstruosités dont nous parlons, si vous leur dites ça, si vous leur dites « mais vous préférez qu'on soit bon avec vous, vous dans votre quotidien, vous n'avez pas envie qu'on vous tape, qu'on vous cogne, qu'on vous humilie ». Et puis, quand vous vous levez le matin, vous préférez avoir un beau ciel que vous regardez, même si vous êtes dans une situation difficile, il y a... des beautés. D'ailleurs, je pense à ça en vous parlant. Regardez que la popularité mondiale dans un temps qui va donner des guerres mondiales de Charlie Chaplin, de Charlot, eh bien, il montrait au monde, y compris le vagabond qui était son personnage, eh bien, pouvait s'émouvoir de deux paires de chaussures, qu'il n'avait rien à manger, avec lesquelles il faisait une danse, d'une fleur, d'une...
Mais est-ce que pour pouvoir faire tout ça, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à savoir admirer ? Je reviens sur la première phrase de votre livre, hein. Seuls les poètes savent admirer. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre aujourd'hui à réapprendre à admirer dans le fond ?
Oui, je savais, j'ai fait une petite émission sur Mediapart avec Cédric Héroux. Cédric Héroux, c'est ce jeune qui s'est installé dans la vallée de la Roya, là, à la frontière franco-italienne, au-dessus de Nice, et qui, sans projet politique, il voyait des jeunes passer, des jeunes demandeurs de refuge. Et il les a accueillis, il a été persécuté, il a finalement fait que le mot de fraternité dans une bataille juridique est devenu à valeur constitutionnelle en France aujourd'hui. Et il a fait aujourd'hui Emmaüs Roya, c'est-à-dire qu'un lieu où ils élèvent des poules, ils font du bio et avec des familles de réfugiés, de gens qui ont traversé des choses effroyables, mais qui veulent simplement voir la bonté et la beauté. Il y a un hasard malheureux de la naissance, on a le droit de bouger, on a le droit de s'échapper. Le sens de l'émancipation, c'est un déplacement. Eh bien, moi, je les admire. Quand j'ai fait cette émission avec eux, et ça me ressaisit, j'ai été ému à la fin. Je leur ai dit à lui et à Marion Gachet, sa compagne, avec qui ils animent ce lieu, je leur ai dit « mais vous nous aidez à vivre ». Je pense qu'il y a une vertu aujourd'hui des résistances, des gens qui tiennent bon.
Retrouvons la beauté, retrouvons la bonté, retrouvons les mots et les auteurs qui nous ont formés et accompagnés. Ce sont nos balises en ces temps obscurs. Vous restez avec nous, Edwy Plenel.
La première.
Dans quel monde on vit ? Simon Brinfo.
J'espère que vous passez un agréable moment à notre écoute. Cette semaine, nous recevons le journaliste Edwy Plenel pour son livre « Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible » et le chanteur et écrivain Mathias Malzieu, leader du groupe Dionysos, pour un album et un livre intitulé « L'Extraordinarium ». Et puis à côté de moi, eh bien, il y a Gilles Bartholins. Vous avez rédigé une lettre, Gilles, et nous vous écoutons.
Cher Black Friday, chevalier noir de la consommation, de la dépense, tu es arrivé cette année à contre-temps de tout avec tes devises en forme d'antithèse. Faites les meilleures économies de l'année, libérez votre épargne, c'est votre portefeuille qui va être heureux. Mais sais-tu seulement ce qui se passe quand tu es annoncé ? Il est 4h du matin, tous attendent dans le froid devant des grandes enseignes. Ils sont prêts à en découdre, cause commune, adversité totale. Les portes s'ouvrent enfin et c'est l'assaut, la ruée vers l'or. Qui pour un écran plat, qui pour un pull repéré ? Elle hurle en courant, il joue des coudes, chacun se précipite vers son désir absolu. À la caisse, enfin, c'est l'affalement. On a réussi, on l'a, la grande promotion déclenche des émeutes, un stock d'une célèbre marque de pâte à tartiner ou d'apéritif. Nez cassé, crise de panique. Cher Black Friday, pour moi, historien jeté en pâture aux actualités, le vendredi noir, c'est plutôt ce jour où Philippe le Bel a confisqué les biens des Templiers. C'est en 1910, la répression à Londres des suffragettes. Tu me diras, il y a aussi le jeudi noir de la rafle du vélodrome d'hiver. Et combien de samedis noirs ? Mais toi, d'où viens-tu, cheval de Troie des porte-monnaies ? Tu suis exactement le jour traditionnel des remerciements des Nord-Américains. Il ne nous reste donc qu'à fêter Thanksgiving, avec ses 45 millions de dindes avalées en guise de contre-don aux Amérindiens venus aider les premiers colonisateurs. La belle généalogie, la faute à l'Amérique blanche ? Non, au dieu de la marchandise, sans doute, divinité pour laquelle il n'y aura jamais assez d'événements, de cartes bancaires, d'achats en ligne, le sommeil comme dernier rempart, dernier moment hors du monde et encore n'a-t-elle pas colonisé nos rêves ? Que faire d'autre ? Entre nous et les autres, des choses. Entre nous et nous-mêmes, des choses encore. Joie, déception, joie renouvelée, d'une époque qui s'annonçait pour Marx comme une immense accumulation de marchandises, nous évoluons à présent dans l'évidence fantastique de la consommation. Nous ne savons pas d'où viennent les choses, nous ne savons pas où elles finissent. Elles sont comme tombées du ciel et entre ces deux moments mystérieux, nous les employons sans les user, nous en usons sans savoir comment elles fonctionnent. La magie est totale et la fête serait perpétuelle, ton règne serait éternel, cher Black Friday, si plongeant sur nous depuis les vertes collines, nous n'étions pas pris en flagrant délit par le Green Friday, armé de ses appels à dévendre, action journée sans achat, mouvement trop c'est trop. Réparer au lieu d'acheter, devenez une famille zéro déchet dans une habitation passive. La double contrainte paraît un instant se résoudre dans le mieux consommer, mais en attendant, tous nos gestes semblent participer à un prodigieux naufrage. Cher Vendredi Noir, ton calendrier est en train d'enfer. Halloween, Black Week, Saint-Nicolas, Noël. En janvier, on sera déjà à Pâques dans les supermarchés. Et nous en avons deux autres au moins des calendriers. Celui du présent redoutable des guerres nouvelles et celui de l'avenir incertain. Ralentis ton galop, cavalier noir. Ne t'inquiète pas de ton succès. Marilyn Monroe a dit que le bonheur, ce n'est pas l'argent, mais le shopping. Ne t'inquiète pas pour ton empire. Tu as même un petit frère numérique, le Cyber Monday. Il arrive, et puisque ta disparition signifierait quand même que nos vies ont été frappées par une effroyable tragédie de l'histoire, à tout prendre, je préfère encore te dire à l'année prochaine. Gilles Bartholins.
Merci Gilles. Le bonheur, ce n'est pas l'argent, c'est le shopping de Marilyn Monroe. Je ne connaissais pas cette citation. Brièvement, une réaction, Edwy Plenel ?
Non, mais bravo, parce que c'est bien le problème. Il faut qu'on sorte de ce monde. C'est ça qu'il y a derrière. C'est la puissance de l'accumulation, la puissance de l'argent. C'est ce, on va dire le gros mot quand même. Oui. Il faut bien dire que tout, il s'appelle le capitalisme. Oui. L'économie de marché est une chose, hein, l'échange, la relation marchande, et c'est aussi vieux, j'allais dire, que l'humanité. En revanche, la forme qu'elle a prise, qui est contemporaine, qui est moderne et qui n'est pas si vieille à échelle de l'humanité, qui s'appelle le capitalisme, est une destruction. Derrière cette accumulation, ça ne cesse de détruire de la richesse, de détruire, eh bien, on va le redire, de la bonté et de la beauté.
De la bonté et de la beauté. Votre lettre, Gilles, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Allez, on monte le son maintenant, on danse et on chante.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Le mythique Song for Jedi de Dionysos et Mathias Malzieux vient de nous rejoindre en studio. Bonjour.
Bonjour.
Et vous ne venez pas les mains vides, si je puis dire, puisque vous allez nous parler d'un projet atypique, grandiose, un peu fou, à l'occasion des 30 ans de Dionysos, l'Extraordinarium. Alors l'Extraordinarium, c'est quoi? C'est un album avec 21 titres célèbres de votre groupe Dionysos, repris en duo avec une série d'invités. Et c'est également 3 chansons inédites. Vous avez invité du monde, du beau monde, Mathias Malzieux, puisqu'il y a notamment à vos côtés M, Olivia Ruiz, Émilie Loiseau, Aldebert, Kerenan, et même François Bunel et Bernard Werber, l'auteur de la saga des fourmis. Mais cet Extraordinarium, c'est aussi un livre avec tous les personnages bien connus, hein, de la galaxie dionysiaque, de Giant Jack à Miss Acacia, en passant par Tom Cloudman. Un livre qui rassemble en fait tous vos livres, Mathias Malzieux, avec en bonus quelques histoires inédites. On peut donc découvrir et redécouvrir votre poésie, vos romans les plus emblématiques, hein, comme La mécanique du cœur, Le guerrier de porcelaine ou encore Le journal d'un vampire en pyjama, un journal intime que vous aviez rédigé lors d'une hospitalisation lorsque vous aviez appris en 2013 que vous étiez atteint d'une maladie rare, l'aplasie médulaire. Alors c'est un drôle d'objet littéraire ce livre, puisqu'il peut se lire comme une seule et unique histoire, et à la fois c'est une espèce de grand récit musical puisqu'il s'accompagne de cette bande-son. C'est donc un aller-retour permanent que vous nous proposez entre la musique et les mots. On entre littéralement dans votre monde, un monde aux accents surréalistes, fantastiques, imaginaires, enfantins, qui tranche, c'est vrai, avec notre monde particulièrement morose ces derniers temps et qui manque bien souvent de fantaisie. « J'ai toujours rêvé d'être un super-héros », écrivez-vous. Pourquoi ?
Pour avoir des pouvoirs magiques qui pourraient permettre d'aider l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai eu envie d'être un super-héros quand j'ai perdu ma mère. J'ai eu envie d'avoir une machine à remonter le temps pour essayer de sauver quelque chose. D'autant plus que mon père, lui, et ça je le raconte dans Le guerrier de porcelaine, avait perdu sa mère en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et s'ils avaient su ce qui allait se passer, en fait, elle aurait pu être sauvée. Mmh. Enfin, il y a toujours eu des choses comme ça. Le fameux « et si », c'est comme s'il y avait des carrefours dans la vie. Et alors, il faut prendre le présent comme un cadeau, mais des fois, d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Si ce n'est pas dans le défaitisme et la nostalgie pesante, bah, ça peut permettre de réfléchir et de rêver encore à un autre futur.
Mmh. C'est une manière aussi de garder un peu d'enfance.
Bien sûr, de toute façon, l'enfant intérieur, il me semble que quand on est artiste, on se doit de le muscler en permanence. Imaginer, c'est notre outil numéro un, qu'on soit musicien, réalisateur, écrivain. L'imagination, surtout dans la période qu'on traverse et de tout temps, permet d'avoir de l'empathie. Pour se mettre à la place des autres, il faut imaginer.
Je vous cite encore, le rock'n'roll, c'est un oasis d'adrénaline pour enfants perdus. On reste sur le thème de l'enfance. Pourquoi pour enfants perdus ?
Bah parce que ça a souvent attiré des inadaptés, en fait, le rock'n'roll. Et qui, du coup, soit par une forme de posture, deviennent encore plus inadaptés et en font un art de vivre. Alors des fois, c'est pour le bien et parfois, ça devient une caricature. Et des fois, arrivent à se canaliser et à prendre leur ultra eux-mêmes pour finalement s'intégrer avec cette grande oasis d'adrénaline électrique qui peut rassembler, et cette espèce de grand-messe païenne qu'est un concert de rock'n'roll.
Un concert de rock'n'roll. Leur ultra eux-mêmes, Mathias Malzieux, c'est compliqué d'être soi, oui. Pour vous. C'est compliqué d'être seulement soi.
Oui, 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 parce que déjà, tous, là je ne parle pas pour moi, il y a le désir d'appartenance, ça rassure, on a besoin d'être relié à quelque chose. Et du coup, quand on arrive à dépasser ça, et au lieu d'avoir juste besoin d'appartenir, mais envie d'être soi-même, eh bien, on fait encore plus société parce qu'on est différent. Et en étant différent, eh bien, on va devoir s'intéresser encore plus à l'autre pour sculpter sa façon. Et ça, c'est passionnant.
Pourquoi, au fond, c'est si important de raconter des histoires ?
Je crois que c'est notre... J'avais mis ça en exergue de mon premier roman. C'était une femme chamane qui s'appelait Leslie M. Silko, qui disait... Les histoires sont le meilleur antidote pour résister à la maladie et la mort. Je pense que les histoires, c'est ce qui nous permet de faire le pas de côté, le fameux pas de côté de la littérature, qui permet de changer de point de vue et d'échanger, de ne pas être d'accord sans s'entretuer, justement, sans prendre tout au premier degré. Il y a une fluidité, il y a une souplesse dans l'interprétation possible qui fait qu'on peut se raconter des histoires. Et puis, en plus, c'est un ticket de voyage, je dirais pas gratuit, mais pas cher, que je n'ai pas compris tout de suite quand j'étais petit, parce que j'avais trop besoin de choses physiques. Mais quand on a un livre, on a un ticket vers l'imaginaire de quelqu'un, mais même des fois d'un peuple, ou en tout cas, on voyage, on peut aller très loin. Et ça, je pense que c'est absolument capital pour ne pas tomber dans l'identitaire. Je pense que le meilleur des remèdes, c'est la lecture.
C'est ce qui nous conduit à l'autre, en fait.
Et la fiction, parce que les récits, bien sûr, c'est très important, parce que c'est des témoignages, donc ça nous apprend comme une dimension historique, presque parfois du présent. Mais la fiction, ça nous permet de se décaler et d'inventer. Et avec ces inventions, bah, du coup, la question de sérieux diminue un tout petit peu. On peut faire les choses très sérieusement, mais se prendre un peu moins au sérieux, imaginer, rêver, et tout ça... comme l'autre composante, c'est évidemment l'humour et le rire, permet en fait de prendre une distance plus agréable avec les tragédies et avec les affrontements.
Ouais, dans l'album, vous avez une chanson « Tuto pour marcher sur l'eau ». Vous imaginez que Jésus, au fond, il avait peut-être un paddle à disposition pour aller sur l'eau.
Et Moïse, un cœur aspirateur géant.
Donc là aussi, voilà, l'humour, c'est le décalage, là aussi, c'est ça que nous permet l'humour.
Je pense que c'est très important, surtout que ça fonctionne avec la même mécanique que la poésie. Une métaphore et une blague, finalement, c'est encore une fois, c'est un changement de point de vue, c'est l'angle biseauté du merveilleux ou du comique qui nous fait en fait avoir une réaction et qui nous renseigne sur le réel. Comme les contes. Les contes ne sont pas des bulles de savon de petits enfants qui rêvent. Ils sont censés nous renseigner sur le réel. Ouais. Comme les blagues nous renseignent sur le réel. Après, il y a les bonnes, les mauvaises, celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. Et c'est encore un autre débat sur la liberté d'expression qui est évidemment capitale. Mais en tout cas, cette chanson, c'était un petit clin d'œil à un certain esprit un peu Charlie Hebdo. Et en même temps... aussi au pastafarisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette fausse...
Ah, vous êtes...
Je suis pastafariste,
vous
évidemment.
Vous êtes pastafariste.
Évidemment, donc c'est une religion parodique. Et c'est vraiment comme dans cet esprit-là que s'inscrit cette chanson. Ce n'est absolument pas quelque chose d'anti-religieux, c'est anti-intégriste.
On va essayer d'en savoir encore un peu plus sur vous. Mathias Malzieu, on va écouter une espèce d'autoportrait un peu particulier. C'est votre selfie sonore.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Vous aurez peut-être reconnu les voix de Roberto Benigni, Tom Waits, John Lurie. C'était dans Down by Law de Jim Jarmusch. Alors qu'est-ce que ça nous dit de vous, cet extrait ?
Déjà, c'est drôle. Ça se passe en prison. Et c'est ce poète involontaire qui est Benigni dans le film, qui a un petit carnet et qui note ses phrases en anglais pour apprendre l'anglais. Donc il fait plein de fautes qui créent de la poésie. Et notamment, il y a un moment où John Lurie se moque de lui parce qu'il n'a pas compris quelque chose. Il fait « Ah !» Et Benigni lui fait « Ah, what is that ?»« Ah !»« Scream, it's a scream. »« Ah, scream, okay, scream. » Et il met « Ice cream, You scream, we all scream for ice cream. Et alors qu'ils sont tous vraiment, il y a une espèce d'austérité, de prison, ils se mettent tous à chanter cette chanson et ils font une espèce de danse d'indien comme ça dans la cellule. Et après, il y a toute la... les autres cellules qui se mettent à reprendre en cœur, et c'est un moment jubilatoire, comme si c'était une fête du 14 juillet, c'est un moment complètement dingue, alors que ça part de trois fois rien, et pour moi, c'est un bon, voilà, c'est un bon pied de nez à la mélancolie, à la nostalgie, c'est la fantaisie, et c'est le ciel étoilé, quoi, c'est dans un moment noir, un trou de lumière qui crée de la beauté et du comique aussi.
C'est une manière de faire le con poétiquement. Vous avez un chapitre qui s'intitule comme ça dans un de vos livres. Faire le con poétiquement est un métier formidable. C'est une manière de faire le con poétiquement.
Tout à fait. Pour moi, c'est exactement ça.
C'est important de faire le con. Donc.
Mais bien sûr, en fait, la légèreté permet la profondeur. Voyager léger permet en fait d'aller plus vite en profondeur. La légèreté, le rire, le surréalisme, le conte, l'apparemment enfantin, comme je le disais tout à l'heure, nous renseigne, en tout cas pour moi, sur le réel. Et pas, je ne parle pas seulement en tant que raconteur d'histoire, je parle entre ceux qui écoutent les histoires et qui discutent avec les gens. Les gens drôles m'apprennent philosophiquement souvent beaucoup plus que ceux qui se prennent très au sérieux. Pas tous, bien sûr, il n'y a pas de règle absolue. Mais en tout cas, c'est une façon d'atteindre les profondeurs qui est souvent, à mon avis, un raccourci, mais pas un raccourci qui réduit, un raccourci qui accélère la lucidité.
Cet album, ce livre, s'appelle donc « L'Extraordinarium », Mathias Malzieu. C'est quoi, au fond, l'extraordinaire pour vous? Est-ce qu'il y a encore de l'extraordinaire dans le monde dans lequel on vit? Où est-ce que vous le trouvez, vous?
Il suffit de regarder. C'est Jean Kelevitch qui a inventé le principe du « je ne sais quoi » et du « presque rien », du charme, en plein Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était juif, d'aller trouver du merveilleux dans le reflet du soleil sur une feuille, le chant d'un oiseau... le rire de sa compagne.
Mais pourquoi c'est si dur, je dirais presque pour le commun des mortels? Pourquoi on a du mal quand même à trouver ce merveilleux, Mathias Malzieu?
Parce qu'on est toujours sur la même problématique, c'est qu'on croit que c'est un truc d'enfant, on croit que c'est une régression, on croit que ça ne sert à rien. Et Baudelaire l'avait dit, la poésie ne sert à rien et c'est pour ça que c'est absolument capital. Il faut faire des choses qui ne servent absolument à rien. On a un problème avec l'utilité systématique, comme si on devenait des machines. Et en fait, être en fait en alerte au merveilleux, à la poésie, à tout ce qu'on veut, il faut se retourner à notre humanité et à notre part d'enfance peut-être. Mais ça ne veut pas dire que c'est une régression, au contraire.
Vous avez publié aussi un livre sonore, hein, Mathias Malzieu, « Au merveilleux de l'enfance ». Et vous disiez ceci, qu'on se le dise, qu'on se l'enchante par les temps qui courent en accéléré à reculons, s'adonner au merveilleux constitue un acte politique.
Oui, ça résume tout ce qu'on vient de dire.
S'émerveiller, c'est résister d'une certaine façon à une certaine conception du monde qui est la nôtre aujourd'hui.
Exactement. Et encore une fois, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un dogme, c'est un antidogme. Faites-le à votre façon. Et du coup, il y aura de plus en plus de façons de discuter, de plus de choses à découvrir. Et à chaque fois qu'on découvre, on sort de sa zone de confort.
Savoir apprendre à regarder peut-être le réel autrement, à voir le monde autrement. Comment vous percevez, par exemple, Mathias Malzieu, l'actualité?
Alors, c'est justement, ça peut paraître paradoxal parce que justement, tout ce qu'on s'est dit sur le merveilleux, etc. Mais je suis extrêmement connecté à l'actualité. Et c'est justement pour ça, le merveilleux n'est pas une fuite du réel ou de mon âge.
C'est une manière de plonger dans le réel encore plus.
Oui, et de le combattre et de faire un dosage. Je vais regarder énormément ce qui se passe en ce moment. Et en même temps, ensuite, je vais lire. Je vais regarder énormément ce qui se passe et puis je vais écrire. Je ne suis pas un journaliste ou un chroniqueur ou un politologue ou un... J'ai pas ces compétences-là, mais j'essaie de me renseigner pour essayer de comprendre des choses et surtout d'être toujours en mouvement. Et plus je comprends, moins je comprends. et c'est pas grave parce que je suis toujours en recherche et j'essaie de penser contre moi-même et tout ça. Donc pour moi, c'est absolument capital. Ce serait terrible si j'étais juste cet homme, entre guillemets, du merveilleux. Ce serait un merveilleux en plastique. Si j'étais que dans la bulle de savon de l'imaginaire et que seulement pour moi comptait Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, ce serait une catastrophe. Il compte pour moi parce qu'il s'oppose et il complète le présent avec tout ce qu'il a de merveilleux parfois et de tragique, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans l'actualité.
Donc il peut y avoir des actualités imaginaires, peut-être. C'est possible, ça, non?
Bien sûr, on invente tous les jours.
Le cœur est aussi très présent dans votre travail. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, le cœur pour vous?
C'est la substantifique moelle de l'émotion et du courage aussi. Avoir du cœur, c'est aussi le courage. Et puis, c'est le principe de vie. C'est la première chose qui se met à battre. Voilà, moi j'ai eu une expérience très difficile il y a 2 ans de fausse couche. Et je me souviens de cette phrase terrible, le cœur ne bat pas. C'est terrible, c'est tout ce qui s'arrête. C'est tout ce qui, là, pour le coup, n'a pas commencé. Et c'est tout ce qui marche aussi. Puis c'est le symbole de l'émotion qui dépasse l'intellect.
Ouais. C'est aussi avec le cœur qu'on crée, finalement. Il faut du courage pour créer et il faut des sentiments.
Oui, oui, je crois à ça. C'est forcément un équilibre. Parce que si on n'est que dans le cœur, c'est une balance. C'est une balance des blancs obligatoire pour créer une image un peu cohérente. On ne peut pas être qu'avec le cœur. Mais en tout cas, que ça soit la chose qui prédomine, qui soit le meilleur guide, mixé ensuite par les techniciens du cerveau gauche et droit. C'est comme ça, à mon avis, qu'on vit le plus intensément. Et peut-être que c'est une petite bêtise de survivant, encore un peu romantique. Mais cette pulsion de vie-là, pour moi, elle est extraordinairement précieuse.
Merci Mathias Malzieu pour cette leçon de vie poétique, l'Extraordinarium. C'est donc à la fois un livre qui rassemble toute votre œuvre littéraire ainsi que quelques inédits, mais c'est aussi une bande-son, un album qui revisite avec quelques invités le répertoire de Dionysos qui fête donc ses 30 ans, oui déjà, mais l'énergie est intacte, la fantaisie est toujours là. Vous restez avec nous Mathias Malzieu.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Merci de nous suivre en direct sur la première ce matin ou un peu plus tard en replay. Et malgré le froid et l'hiver qui approche, il est temps de faire entrer quelques frissons dans ce studio grâce à nos invités. Et du Plenel, voici le son qui vous procure des frissons.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena.
Un extrait de Grandola Villa Morena par José Afonso. Pourquoi vous frissonnez quand vous entendez ça ?
Vous savez, ça va être le 50e anniversaire l'année prochaine. C'est la révolution des œillets. Cette chanson, les capitaines qui ont déclenché cette révolution démocratique contre la dictature salazariste au Portugal en 1973, eh bien, ça a été leur sésame. C'est-à-dire que quand elle a été diffusée sur les ondes, dans leur complot qu'avaient fait ces capitaines, avec notamment Otelio de Carvalho, qui était un superbe monsieur, eh bien, c'était le signal. C'était le signal de leur coup d'État. En écoutant aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est très impuissant, mais qui dit tout ce que le monde devrait entendre aujourd'hui par rapport aux catastrophes en cours. Il est portugais, il vient de là, il vient de cette histoire-là, de ce sursaut-là, et ça prouve que voilà,
tout est encore
cette histoire
possible.
Va continuer.
On peut rêver d'une révolution de la beauté et de la bonté. On va l'écouter, cette chanson est du Plenel, Mathias Malzieu, voici le son qui vous fait frissonner.
The moment somebody says, yes, I believe in free speech, but I stop listening. The point about it is the moment you limit free speech, it's not free speech. The point about it is that it's free. You can dislike Charlie Hebdo, you know, not all their drawings are funny. But the fact that you dislike them has got nothing to do with their right to speak. The fact that you dislike them certainly doesn't in any way excuse their murder.
C'était la réaction de Salman Rushdie en janvier 2015 après l'attentat de Charlie Hebdo. À partir du moment où quelqu'un dit « oui, je crois à la liberté d'expression, mais j'arrête d'écouter », à partir du moment où on met une limite à la liberté d'expression, ce n'est plus de la liberté d'expression. On peut ne pas aimer Charlie Hebdo, certains de leurs dessins ne sont pas bons, mais le fait de ne pas les aimer ne leur enlève pas le droit de parler et n'excuse en rien leur assassinat. Pourquoi cet extrait vous donne des frissons ?
Il me donne des frissons parce qu'on venait de me sauver de la maladie qu'on a évoquée tout à l'heure. Je restais 11 semaines en chambre stérile et je sors. Et c'est l'attentat de Charlie Hebdo quelques semaines après. Donc moi, j'ai vu tous ces gens, en fait, qui se sont battus pour me sauver la vie. Et après, là, il y a des gars avec des flingues qui tuent pour un dessin, pour des histoires de, je dirais même pas de religion, je dirais d'intégrisme. Et c'est terrible. Et du coup, j'entends ce que vous avez dit,
cette intervention de Salman
Rushdie, que je n'avais jamais lu à l'époque.
Oui.
Et je trouve ça d'une justesse absolue. Et du coup, alors je connaissais son histoire de loin, mais je croyais que c'était un espèce de spécialiste de la religion, très obscur comme ça,
Je pensais pas que c'était un écrivain, en fait.
Enfin, en tout cas, je pensais que c'était voilà un espèce de théoricien qui avait fait quelque chose qui n'avait pas plu. Alors, j'étais évidemment contre le fait qu'il soit censuré, mais je ne connaissais pas son œuvre.
Et du maintenant, coup, vous la connaissez.
Mais maintenant, je la connais et je l'adore.
Et nous allons terminer avec nos choix culturels pour ce week-end. Edwy Plenel, qu'est-ce que vous nous recommandez ?
En fait, je vous recommande un livre que j'ai découvert après avoir publié « Se tenir droit » et qui, en fait, est tout à fait en écho. C'est une écrivaine, une psychanalyste aussi, Anne Dufour-Mantel. Ça s'appelle « Puissance de la douceur ». D'abord, je voudrais rendre hommage à cette femme qui a eu une mort tragique et qui est en même temps une belle mort. Elle est morte jeune en sauvant des personnes qui n'étaient pas ses enfants, qui étaient en train de se noyer. Elle les a sauvés, mais elle est morte. Et ce petit livre est tout à fait en écho de ce que j'ai voulu dire. La douceur, dit-elle, provoque de la violence. Pourquoi ? Parce que elle parle de la bonté et de la beauté, justement, mais de ses âmes. Sa contiguïté avec la bonté et la beauté la rend dangereuse pour une société qui n'est jamais autant menacée que par le rapport d'un être à l'absolu. Donc ce petit livre, Puissance de la douceur, si vous avez eu envie de lire Se tenir droit, eh bien je vous le conseille en lecture complémentaire. C'est comme un passage de témoin par-delà la mort, la vie continue.
Et vous, Mathias Malzieu, je suis certain que vous avez quelque chose à nous proposer.
The Man in the High Castle. Alors, je vais le dire en français.
L'homme du haut château.
L'homme du haut château, c'est adapté d'un livre de Philip K. Dick qui a fait plein de choses extraordinaires en science-fiction. Et c'est une série adaptée de ça. Et c'est une série dystopique qui imagine les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont gagné. Et du coup, on se retrouve avec les États-Unis coupés en deux, avec une partie des États du Pacifique qui sont aux mains des Japonais, une zone neutre au milieu et le reste un Reich américain. Alors les images sont saisissantes parce
que ça donne pas envie. Hein.
Ah ben non, ça donne pas envie, mais du coup ça fait vraiment réfléchir. C'est pas du tout une relativisation de l'idéologie, au contraire, ça montre à quel point elle est mortifère, à quel point elle est absurde.
Et vous, Gilles, que nous conseillez-vous ?
Je vous proposerai là, il y a quelques jours, la réédition d'un petit livre. Son titre, c'est « C'est de l'eau » et qui est le discours prononcé par l'écrivain américain mort trop jeune à 46 ans, David Foster Wallace, à des étudiants. Ce sont des paraboles, de l'humour, une pensée déconcertante pour l'auteur, peut-être que certains connaissent, de la comédie infinie, ce monument inclassable de 1500 pages. Mais bon, là pour l'heure, peut-être c'est de l'eau, une dizaine ou une trentaine ou une quarantaine de pages vous suffiront.
Voilà, on aura de quoi lire pour ce week-end. Et quant à moi, je vous recommande, même s'il est critiqué, d'aller voir le Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Oui, il y a des erreurs historiques, mais c'est tant mieux, d'abord parce que c'est un film et non un documentaire, et puis parce que c'est l'occasion de rappeler justement toute l'importance du travail des historiens, que ce soit sur Napoléon ou sur d'autres sujets. Et je vous recommande aussi évidemment les livres de nos invités, Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible d'Edwy Plenel, c'est aux éditions du Seuil, et L'Extraordinarium en livre et en CD de Mathias Malzieu et Dionysos, c'est au livre de poche. Dionysos sera en concert à l'ancienne Belgique le 27 février. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission et merci à vous, Gilles.
Merci Simon, à bientôt.
À très bientôt.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.